Saint, nous en sommes maintenant au message 2 de cette conférence et j'aimerais partager avec vous encore une fois le sujet général qui, selon moi, est très important. Noé, Daniel et Job, des modèles, nous montrant comment mener une vie de vainqueur sur la ligne de la vie afin d'accomplir l'économie de Dieu. Dans la dernière session, en particulier si vous n'étiez pas là, et même si vous étiez là, il nous faut vraiment saisir ce principe. Dans le plan du dernier message, il y a un point qui nous dit que la Bible, avec ses 66 livres, ne sert qu'à une chose, que Dieu en Christ, par l'Esprit, se dispense en nous pour être notre vie, notre nature et notre tout, afin que nous puissions vivre Christ et l'exprimer. Le point se termine en disant, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, cela devrait être le principe qui régit notre vie. Le principe qui régit notre vie. Saint, j'aimerais maintenant vous lire un petit passage de ce livre qui s'intitule « La vision du recouvrement du Seigneur, formation pour les anciens, tome 2 ». Ce passage se trouve à la fin du livre et je vous encourage de le lire. Je vous en lirai un petit passage. Lorsque j'ai relu ce passage, j'étais tellement reconnaissant que Frère Lee nous ait laissé cela pour le futur. Voilà ce qu'il dit. La Bible dans son ensemble a été écrite selon le principe suivant. Le Dieu trinitaire forgé dans son peuple racheté pour être sa réjouissance. L'application de ce principe, lorsque l'on interprète n'importe quel passage du Nouveau Testament, est inexhaustible. Ensuite, le message que vous délivrez, que vous délivrerez, quel que soit le passage que vous utiliserez, s'en trouvera grandement enrichi. Votre message et votre ministère seront différents. Il y aura un principe intrinsèque qui gouverne tout ce que vous dites. Qui gouverne tout ce que vous dites, ce que vous enseignez et ce que vous prêchez. Tel est mon fardeau. Si vous ne faites que lire des messages d'une étude de vie ou en tirer le contenu de vos messages, cela ne servira à rien. Vous n'aurez pas été constitué par un tel principe, et ce principe ne sera pas devenu pour vous une vision. Vous pouvez avoir les yeux pour lire la Bible et l'intelligence pour la comprendre, mais vous n'avez pas la clé pour l'ouvrir. Il vous faut la clé. Laissez-moi continuer. Notre frère dit la chose suivante. Il dit « Certains disent qu'il n'est pas nécessaire de venir m'écouter, car je dis toujours la même chose, je prêche et j'enseigne toujours la même chose. Je suis absolument d'accord avec cette affirmation. » Écoutez cela, il nous dit « Ce que je sers est toujours, et ceci est entre guillemets, du bœuf américain. Je sers toujours du bœuf américain. Ce bœuf est cuisiné et préparé par moi de nombreuses façons différentes. » Parfois à la manière d'un bœuf, pardon, à la manière d'un steak. Parfois à la manière d'un hamburger. Parfois, je sers ce bœuf à la manière d'un ragoût chinois. Je sers toujours du bœuf. Quoi que je serve, c'est du bœuf. Ce bœuf est ma clé. Quel est ce bœuf, entre guillemets? Il s'agit du Dieu trinitaire passé par un processus. Voilà ce qu'est le bœuf. Certains cuisiniers chinois se vantent d'avoir plus de 20 façons différentes de cuisiner quelque chose. Par la miséricorde du Seigneur, je peux me vanter auprès de ces cuisiniers que j'ai des centaines de façons différentes de cuisiner mon « bœuf » entre guillemets, car j'ai délivré plus de 2000 messages. Chaque message est une façon différente de cuisiner la même chose. Le Dieu trinitaire qui est en train d'être forgé dans son peuple élu et racheté. Et ensuite, il nous dit, ceci est la clé. Si vous avez la clé, alors vous pourrez vous rendre compte que chaque page de la Bible est la même. Et il conclut en disant cela. Vous avez besoin de ce principe fondamental de cette vision. Il vous faut voir que le Dieu trinitaire est l'essence. Et devrait être l'essence de tous les messages que nous délivrons. C'est la seule chose qui contribue au dessein de Dieu. C'est la seule chose qui nous empêche d'être écartés du bon chemin. C'est la seule chose qui peut nous préserver dans l'unité, dès ce jour et pour toute l'éternité. C'est des déclarations tout simplement remarquables. Et remercions vraiment le Seigneur pour cela. Voilà ce que nous aspirons à faire dans l'œuvre du Seigneur. Nous voulons toujours utiliser cette clé, utiliser ce principe et vivre selon ce principe. Et saint, la raison pour laquelle je commence ce message de cette manière, c'est que j'aimerais souligner encore une fois que nous avons Noé, Daniel et Job. Et à nouveau, il est possible que nous nous demandions pourquoi ces trois hommes, pourquoi Job se retrouve dans la même catégorie que Noé et Daniel. Comme je l'ai démontré dans le premier message, le contexte ici, c'était que Dieu était en train de déverser tout son jugement, tous ses jugements sur Jérusalem. Et ce que Dieu dit est la chose suivante. C'est là que Noé, Daniel et Job se retrouvent mentionnés ensemble, dans les versets d'Ézéchiel 14 et Ézéchiel 14-20. Voilà ce que Dieu dit. Même si Noé, Daniel et Job étaient au milieu d'elle, à Jérusalem, ils délivreraient leur âme seulement par leur justice. Il s'agit du verset 14. Laissez-moi vous le relire. Je vous lis le verset 14. « Et que ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, fussent au milieu de lui, ceux-ci délivreraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur Jéhovah. » Le verset 20. « Noé, Daniel et Job, fussent-ils au milieu de lui, je suis vivant, dit le Seigneur Jéhovah. S'ils délivraient fils ou fille, eux seulement, par leur justice, délivreraient leurs âmes. » Nous avons vu, chers saints, dans le premier message, et je veux que cela soit présent dans notre esprit, que les vies de Noé, Daniel et Job révèlent le Dieu trinitaire, qui se dispense dans son peuple élu pour accomplir son économie. Il s'agissait du deuxième grand point 2 dans le premier message. A dit, avec Noé, nous voyons Dieu le Père dans son désir et son plan concernant son édifice, et dans sa fidélité éternelle à garder son alliance, sa parole. Nous pouvons voir cela dans Genèse. B dit, avec Daniel, nous voyons Christ le Fils comme la centralité et l'universalité de l'avance de Dieu, et sa seconde venue comme le Fils de l'homme. Nous avons ici des versets de Daniel qui nous montrent cela. C dit, avec Job, nous voyons Dieu l'Esprit dans son œuvre de transformation, pour réaliser ce qui est caché dans le cœur de Dieu. Rappelez-vous que Job 10-13 parle de ce qui est caché dans le cœur de Dieu. Afin que nous puissions gagner Dieu pour devenir Dieu dans la vie et dans la nature, et dans l'apparence, mais pas dans la déité, en vue de devenir l'expression corporative de Dieu. Et donc nous pouvons voir, lorsque nous examinons ces trois personnes, Noé, Daniel et Job, nous avons là la clé. Le principe qui régit. Et pour interpréter, pourquoi nous avons ces trois personnes ensemble? Et lorsque vous lisez le ministère, cela devient très clair. Qu'avec Noé, nous voyons Dieu le Père. Avec Daniel, nous voyons Christ le Fils. Et avec Job, nous voyons Dieu l'Esprit. C'est le Dieu trinitaire qui se dispense dans notre être pour l'accomplissement de son économie. Je répète le titre, le sujet général. Des modèles nous montrant comment mener une vie de vainqueur sur la ligne de la vie afin d'accomplir l'économie de Dieu. Et par rapport au premier message, j'aimerais encore mentionner, souligner une chose. Et ensuite, nous lirons le plan du point 2. Le Seigneur Jésus ne prend en charge, ne s'occupe que de cas impossibles. Si vous avez le sentiment que votre cas est impossible, alors vous pouvez être un patient du Seigneur Jésus. Il est notre médecin et il ne s'occupe pas de cas qui ne sont pas impossibles. Si un médecin mettait une pancarte sur la porte de sa clinique et qu'il disait « Je ne prends que des cas impossibles », il ne ferait pas beaucoup d'affaires. Mais si vous lisez Luc 18, nous avons là un jeune homme riche qui se rend auprès du Seigneur Jésus et qui lui demande « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Le Seigneur lui répond qu'il faut garder les commandements et il lui en cite 5. Et ce jeune homme lui dit « Toutes ces choses, je les ai gardées dès ma jeunesse. » Et alors le Seigneur lui répond. Il est dit « Jésus ayant entendu, lui dit « Il te manque encore une chose. » En d'autres termes, tu as fait tout cela par tes propres efforts. Mais, néanmoins, il te manque encore une chose. Une chose. Saint, si nous vivons par nos propres efforts, si nous vivons la vie chrétienne par nos propres efforts, il nous manquera toujours une chose que nous n'arriverons pas à surmonter. Et la raison pour laquelle le Seigneur dit cela au jeune homme riche, c'était pour qu'il puisse se rendre compte que son cas à lui aussi était complètement sans espoir et que lui-même était complètement impuissant. Le jeune homme riche est parti, il a quitté le Seigneur. Il aurait dû rester avec lui, mais il n'est pas resté avec lui, il est parti. Ensuite, plus loin, le Seigneur, au verset 25, dit « Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples disent ensuite « Seigneur, alors qui peut être sauvé ?» Au verset 27 de Luc 18, le Seigneur répondit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Saint, notre cas est impossible. Mais remercions le Seigneur. Il peut nous paraître impossible de devenir des vainqueurs, de faire partie de la mariée victorieuse, mais c'est tout à fait, c'est absolument possible à Dieu. Dans Luc 19, verset 2, il est dit « Et voici, il y avait là un homme appelé du nom de Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts. » Et notez bien ces paroles-là, « Et il était riche. » Il était riche, tout comme le jeune homme dans Luc 18. Mais le Seigneur montrait dans Luc 19 que cela est possible à Dieu. C'est impossible à l'homme, mais c'est possible à Dieu. Et donc, être un chrétien, devenir un vainqueur, n'est pas seulement quelque chose de difficile, c'est quelque chose qui est impossible. Seul le Dieu trinitaire, passé par un processus et parachevé, qui vit en nous en tant que l'Esprit tout inclusif, ce n'est que lui qui peut être un chrétien et un vainqueur. Il nous faut nous rappeler de cela continuellement. Nous devons contacter, nous devons exercer notre esprit pour contacter l'esprit tout inclusif dans notre esprit. En tant que le Dieu trinitaire, passé par un processus et parachevé, lui est le seul vainqueur avec un grand V dans cet univers. Venons-en donc à Noé dans ce message 2. Et le titre de ce message est « Noé, la vie et l'œuvre qui peut faire basculer l'âge ». Voilà ce que nous voulons avoir. Nous voulons avoir la vie qui peut faire basculer l'âge et accomplir l'œuvre qui peut faire basculer l'âge. J'aimerais maintenant citer quelque chose du ministère, qui pour moi est quelque chose de merveilleux. Voilà ce qui est dit. Notre vie est notre œuvre, et notre œuvre est notre avance. Notre œuvre est notre existence, et notre avance est notre être. Ce que ces deux déclarations montrent, c'est que ce qui importe le plus dans notre service est notre personne elle-même. Notre vie devrait être notre œuvre. Notre œuvre devrait être notre existence. Et notre avance devrait être notre être. C'est ainsi qu'il en était du Seigneur Jésus, c'est ainsi qu'il en était de l'apôtre Paul. Nous avons maintenant des versets cités en référence dans Genèse et dans Hébreux, au sujet de Noé. J'aimerais vous lire certains versets dans Genèse 6. Le verset 5. Jéhovah vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. Jéhovah regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur fut affligé. Jéhovah dit : J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Ensuite, le verset 6 est un des versets le plus puissant, un des versets les plus puissants de toute la Bible, qui commence avec « Mais Noé ». Dans le dernier message, nous avons partagé que lorsque les choses sont au plus bas, lorsque la situation est la pire qu'elle puisse être, aux yeux de Dieu, il y a toujours un « mais ». « Mais Noé ». « Mais Noé a trouvé grâce aux yeux de Jéhovah ». Notre traduction utilise, selon l'hébreu, ce qui est juste selon l'hébreu, « Noé obtint la faveur de Jéhovah ». Mais notre frère Lee a dit que le mot en hébreu peut aussi se traduire par « grâce », la grâce du Nouveau Testament. Et donc, voilà, nous pouvons aussi dire « Mais Noé trouva grâce aux yeux de Jéhovah ». Nous avons ici aussi Hébreux 11, 7. Mais laissez-moi d'abord vous lire Hébreux 11, 5 et 6, qui parle d'Enoch. Enoch était la personne qui venait juste avant Noé. Et il est dit, car avant son transfert, avant le transfert d'Enoch, c'est-à-dire avant d'avoir été enlevé, lui qui marchait avec Dieu, qui avait marché avec Dieu pendant 300 ans, avant son transfert, avant d'être transféré par Dieu, il avait obtenu le témoignage qu'il avait été agréable à Dieu. Saint, nous devons prier. Seigneur, avant que je ne vienne te rejoindre, avant que tu reviennes, je veux obtenir le témoignage d'avoir été agréable à tes yeux. Le verset 6 continue. Mais sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Et nous avons vu dans le ministère une définition merveilleuse de la foi. Que la foi, c'est croire que Dieu existe, que Dieu est et que nous ne sommes pas. Dieu est le seul qui est en toute chose et nous ne sommes rien en toute chose. Nous croyons que Dieu est, que Dieu existe. C'est merveilleux. Je m'arrêterai ici à ce sujet. Vous pouvez examiner, vous pouvez lire l'étude de cristallisation de Romains dans laquelle il y a de nombreux messages qui parlent de la foi, qui parlent de cela. Après les versets 5 et 6, le verset 7 parle de Noé. Par la foi, Noé. Hébreux 11 mentionne de nombreuses personnes et tous leurs accomplissements qu'ils ont effectués par la foi. En croyant que Dieu est et qu'il n'était pas. En croyant que Dieu est toute chose et que eux n'étaient rien. Et donc Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et motivé par une crainte pieuse, prépara une arche pour le salut de sa maison. Par l'arche, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. Lisons le grand point 1. Le grand point 1 nous parlera de la vie de Noé, qui était une vie qui a fait basculer l'âge. Et le grand point 2 nous parlera de l'œuvre de Noé qui a fait basculer l'âge. La vie de Noé était une vie qui a fait basculer l'âge. Nous avons ici Philippiens 1, 19 à 21a. Et j'aime énormément ces versets. Paul nous dit, « Car je sais que cela tournera à mon salut. » Cela se réfère à quoi ? Pour Paul, c'était son emprisonnement. Quelle que soit la situation, l'environnement dans lequel nous nous trouvons, cela, c'est ce « cela » dans le verset 19. « Je sais que cela tournera à mon salut. » Avec Noé, il y avait quelque chose de merveilleux qui est lié au salut et que nous aborderons tout à l'heure. Ici, dans Philippiens 1, 19, le salut, c'est être approvisionné pour vivre Christ pour sa magnification et son expression. Nous sommes pour cela approvisionnés par l'approvisionnement abondant de l'Esprit de Jésus-Christ. Le point A dit « Dieu montra à Noé la véritable situation de l'âge corrompu dans lequel il vivait. Je viens de lire des versets dans Genèse 6. Dieu avait sa propre évaluation de cette situation corrompue qu'il a révélée à Noé. Et Matthieu 24 nous dit que les jours avant la venue du Fils de l'homme seront comme les jours de Noé. Donc c'est très significatif. Dans 2 Timothée 3, il est question des derniers jours. Je pense que nous avons tous le sentiment, et nous devrions effectivement avoir ce sentiment, comme nous le montrent les Écritures, que les jours dans lesquels nous vivons aujourd'hui sont les derniers jours. Et dans les derniers jours, je vais mentionner quelques petites choses, les hommes seront égoïstes, avares, vantards, arrogants, injurieux, désobéissants. Saint, que l'Église tombe en dégradation ou que l'Église exprime Dieu est déterminée par quel genre d'amoureux du Seigneur nous sommes. Dans 2 Timothée 3, 1 à 5, il n'est pas question ici des incroyants, il est question de la condition du corps de Christ au dernier jour. Et donc, saint, il nous faut prier, « Seigneur, sauve-moi d'être égoïste, quelqu'un qui aime mon moi. Au lieu de ça, nous devrions renier notre moi et prendre Christ comme notre personne et être une personne qui aime le Seigneur. Nous devons prier, Seigneur, sauve-moi d'être quelqu'un qui aime l'argent, sauve-moi d'être avare. Vous savez, nous n'avons pas besoin d'avoir de l'argent pour aimer l'argent, mais nous devons prier, Seigneur, sauve-moi d'être avare. J'aimerais dire cela. Qui est notre véritable argent, notre véritable richesse? C'est Christ lui-même. Ensuite, il est dit que les hommes seront ceux qui aiment le plaisir. Seigneur, nous devons dire, Seigneur, sauve-moi d'aimer le plaisir du monde. Qui est notre véritable plaisir? Qui est notre véritable réjouissance? C'est Dieu lui-même corporifié en Christ et réalisé comme l'Esprit. Voilà pourquoi, si vous lisez le psaume 38, les versets 8 et 9, il est dit que Dieu nous abreuve au torrent de ses délices. Et donc, il est notre plaisir, il est nos délices. Et nous voulons être, comme ces versets nous le disent, nous voulons être ceux qui aiment Dieu, plutôt que ceux qui aiment le plaisir du monde. Le point B répète ce verset si important. Mais Noé trouva grâce ou faveur aux yeux de Jéhovah. Et je me répète, c'est un des versets les plus merveilleux dans Genèse. Frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle tous les jours, nous devons prendre Christ comme notre vie d'obéissance, pas notre propre obéissance. Le Seigneur est la vie d'obéissance. Si vous regardez dans Philippiens, Dieu, il a été obéissant même jusqu'à la mort, et la mort même d'une croix. L'obéissance, c'est Christ lui-même, comme l'esprit tout inclusif dans notre esprit. Nous devons mener une vie d'obéissance. Dans Hébreux 4, 16, nous devons prendre son obéissance et nous approcher avec hardiesse du trône de la grâce tous les jours, afin de recevoir miséricorde et trouver grâce pour avoir un secours opportun. Saint, s'approcher du trône de la grâce. En fait, le trône de la grâce est le Seigneur lui-même. Nous devons mettre le Seigneur sur le trône, au centre de notre être tous les jours. Seigneur, je te donne la première place dans mon être aujourd'hui. Je te donne la première place dans mon être. Je te donne la première place dans mon existence. Et je te donne la première place dans mon service envers toi. Lorsque nous faisons cela, alors ce qui se passe, c'est que la grâce devient un trône en nous. Jusqu'au point même où Romains 5, 21 dit que la grâce règne, la grâce qui est Dieu en Christ comme l'Esprit pour notre réjouissance. La grâce règne et régule notre être. Voilà ce que nous voulons qu'il se passe. Le point 1 dit « Quand Satan a fait de son mieux pour endommager la situation, il y a toujours eu certaines personnes qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu pour devenir ceux qui amènent l'âge suivant. » Nous avons ici tous ces versets dans Daniel. Et nous parlerons de Daniel dans le prochain message. Nous avons parlé un petit peu de Daniel dans le message précédent. Nous avons donné un petit extrait au sujet de Daniel. Nous avons vu dans le dernier message, dans Daniel chapitre 1, vous savez, Daniel et ses compagnons, le roi voulait qu'il mange la nourriture, sa nourriture, qu'il pensait qu'elle allait les rendre en bonne santé. Mais c'était une nourriture qui était offerte aux idoles. Et Daniel avait décidé de ne pas se souiller avec les mets du roi et avec le vin que le roi buvait. Et donc il a demandé au chef des eunuques de ne pas le forcer à se souiller. Donc c'est ça le contexte. Et comme Daniel était tellement un avec le Dieu trinitaire, le chef des eunuques a vraiment respecté Daniel et s'est occupé de Daniel. Et j'aimerais ici corriger l'erreur que j'ai faite dans le premier message. Daniel dit « Donne-nous 10 jours ». J'avais dit dans le premier message « 7 jours ». Donne-nous 10 jours où nous mangerons notre propre régime alimentaire et nous verrons le résultat. Et donc voilà, après 10 jours, il est dit qu'ils avaient meilleure mine et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Donc c'est quelque chose de merveilleux. Cela montre que nous devons tout simplement manger Christ tous les jours. Si nous le mangeons lui, alors nous serons en bonne santé. Je dirais même que nous serons resplendissants. Nous serons resplendissants. Dans Daniel 9, 23, le messager angélique s'adresse à Daniel et lui dit « Car tu es un bien-aimé, tu es précieux, Daniel. » Il dit « Daniel, tu es un homme qui est précieux. » Ça, nous devons avoir cette prière dans notre être, que si un messager angélique venait vers nous, en fait, ce messager angélique venait transmettre à Daniel un message de la part de Dieu. Et à ses yeux, aux yeux de l'ange qui était du bon côté, qui ne s'était pas rébellé, il voyait Daniel comme étant précieux. Nous devons prier, « Seigneur, fais de moi quelqu'un de précieux. » Dans 1 Pierre 2,7, il est dit, « À vous, pour vous qui croyez, elle est précieuse. » Donc, la foi elle-même est précieuse. Paul dit dans Philippiens, « Je regarde aussi toute chose comme une perte. » Tous les accomplissements de Paul étaient une perte à ses yeux. Il dit « Je regarde aussi toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ Jésus mon Seigneur, à cause duquel j'ai souffert la perte de toutes choses et les regarde comme des ordures, afin de gagner Christ. » Paul avait eu un changement dans son système de valeurs. Nous devons aussi avoir un tel changement. Ce qui avait le plus de valeur aux yeux de Paul, c'était gagner Christ. Voilà ce qui devrait avoir le plus de valeur à nos yeux. Nous voulons gagner Christ. Christ est Dieu lui-même. Et donc, tous les jours, nous voulons gagner plus de Dieu. Dans cette réunion même, nous voulons gagner plus de Dieu. Autant que possible. Je vais conclure avec cela. Vous savez, dans Jérémie 15, verset 19, le Seigneur dit cela à Jérémie. « Si tu sépares ce qui est précieux, » je souligne ici le mot « précieux, »« si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, Tu seras comme ma bouche. Nous serons comme la bouche de Dieu. En d'autres termes, lorsque nous dispensons la parole de Dieu, ce que nous faisons tous, selon notre portion, selon notre mesure, quand nous prenons soin des gens, nous devons séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Tout ce qui n'est pas Dieu lui-même, corporifié en Christ et réalisé comme l'Esprit pour notre réjouissance, est sans aucune valeur. Lui seul est ce qui est précieux dans l'univers. Et donc nous devons toujours séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Et alors nous serons comme la bouche de Dieu. Je continue avec le point 2. Le but principal du récit de la Genèse n'est pas de montrer la chute, mais de montrer combien la grâce de Dieu peut faire pour le peuple déchu. La grâce est Dieu lui-même, la présence de Dieu. J'aime vraiment cela, cher saint. Qu'est-ce que la grâce ? C'est la présence de Dieu. La grâce est la présence de Dieu. Je ne pourrai jamais oublier cela. Il y a de nombreuses fois où Frère Lee montait sur la plateforme et il priait cette prière. « Seigneur, ta présence vaut tout pour nous, dans notre vie et dans notre œuvre. » Et c'est bien sûr la vérité. Si nous avons la présence du Seigneur, nous avons tout. Si nous perdons la présence du Seigneur, nous perdons tout. Car comme ce point le dit, la grâce est la présence de Dieu. La grâce est Dieu lui-même. Et pratiquement parlant, la présence de Dieu est le sourire de Dieu. Quand vous avez le sourire de Dieu, alors vous avez sa présence. Donc, la grâce est Dieu lui-même, la présence de Dieu dont nous jouissons, jusqu'à ce qu'elle soit tout pour nous et fasse tout en nous, à travers nous et pour nous. La grâce est Dieu qui vient à nous pour être notre provision de vie, notre force et notre tout. Et saint, j'aimerais vous encourager. Avec tous ces points que nous lisons, que nous présentons ici, priez des prières courtes sur ces points. Il n'y a pas besoin que ce soit de longues prières. Vous pouvez dire « Seigneur, je veux que tu sois aujourd'hui pour moi la grâce. Fais tout en moi, pour moi, à travers moi. Et viens à moi pour être ma provision de vie, ma force et mon tout. » Si vous priez comme cela, tout simplement, le Seigneur va répondre à une telle prière. Dans Jean 1, 14, il nous est dit que nous devons recevoir grâce sur grâce. Grâce sur grâce, voilà ce qu'est notre vie quotidienne. Grâce sur grâce. Le point A dit « La réjouissance du Seigneur, comme la grâce, est avec ceux qui l'aiment. » Voilà pourquoi nous devons tous les jours commencer notre journée en disant « Seigneur Jésus, je t'aime. » Alors nous aurons commencé notre journée avec la réjouissance du Seigneur comme la grâce. La réjouissance du Seigneur comme la grâce est avec ceux qui l'aiment. Il s'agit d'Éphésiens 6, 24. Nous savons, dans Jean 21, 15 à 17, juste avant cela, nous savons que Pierre avait renié le Seigneur trois fois. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait ensuite? En fait, il était en train de recouvrer Pierre, de le restaurer, d'avoir de la communion avec lui. Et donc, il lui a demandé trois fois, le Seigneur demande à Pierre trois fois, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Est-ce que tu m'aimes ? Voilà en fait ce que le Seigneur veut de nous. Lorsque nous arrivons au fond de la question, le Seigneur nous demande « Est-ce que tu m'aimes ?» Donc il demande au Seigneur « Pierre, m'aimes-tu ? » Et Pierre lui répond « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et donc si nous aimons le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer ? Le Seigneur répond directement à Pierre « Paix mes agneaux. » Saint, si nous aimons le Seigneur, alors spontanément le Seigneur va s'écouler de nous pour nourrir ses agneaux. Le Seigneur demande ensuite encore une fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Alors Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Et être un berger inclut chérir les gens, nourrir les gens, paître les gens, ce qui veut dire les satisfaire avec la présence du Seigneur et les nourrir de l'élément du Seigneur. Une troisième fois, le Seigneur demande à Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Et Pierre lui répond, « Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Et donc le Seigneur lui dit, « Paie mes brebis. » Et saint, vous savez, à la fin du ministère de notre frère, je pense que si vous regardez dans l'étude de cristallisation de l'évangile de Jean, tout à la fin, il y a un titre merveilleux. Vous savez, je me souviens d'avoir été avec Frère Lee lorsqu'il donnait tous ces titres. Les titres en eux-mêmes sont merveilleux, sont remarquables. Le titre de ce message en particulier était « Le ministère apostolique qui coopère avec le ministère céleste de Christ ». Cela nous est montré dans Jean 21, 15 à 17. Qu'est-ce que le ministère apostolique ? Il s'agit d'aimer le Seigneur, de nourrir ses agneaux, de paître ses brebis et de nourrir ses brebis. Tout cela est en coopération avec le ministère céleste de Christ. Qu'est-ce que le ministère céleste de Christ ? Selon 1 Pierre 2,25, Christ, maintenant, il est bien sûr en ascension, en résurrection. Il est en ascension, mais que fait-il ? Il est le berger et le surveillant de nos âmes. Il se soucie, il prend soin de la condition de notre véritable personne. Dans Hébreux 13, il nous est aussi montré ce que Christ est en train de faire. Le Christ ressuscité et en ascension dans son ministère céleste est le grand berger des brebis. Dans Apocalypse 1, 12 à 13, nous voyons que Christ marche au milieu des chandeliers d'or. Il est vêtu d'une robe sacerdotale, il est ceint autour de la poitrine du ceinture d'or, pas au niveau des reins, mais au niveau de la poitrine. La poitrine représente l'amour, et la ceinture d'or représente la force divine. Tout cela veut dire que Christ exerce sa force divine avec son amour, qui a pour but de prendre soin, de chérir toutes les églises sur la terre. Et il marche, il se promène au milieu des chandeliers, en tant que le Fils de l'homme. Et il a une ceinture d'or autour de la poitrine qui représente la force divine et son amour. Et que fait-il avec les chandeliers ? D'après l'Ancien Testament, d'après l'image de l'Ancien Testament, les sacrificateurs étaient toujours ceux qui coupait la mèche du chandelier, et qui ajoutait l'huile dans le chandelier. Voilà ce que le Seigneur est en train de faire, même dans cette conférence. Je me dis toujours que nous pourrions mettre une pancarte à la porte de la réunion. Là, maintenant, nous n'avons pas de porte, nous sommes sur Zoom, mais nous pourrions mettre une pancarte qui dit « Entrez, venez pour être coupé, pour recevoir une coupe », comme si on allait chez le coiffeur. Mais ce n'est pas ce genre de coupe-là. Il s'agit ici de couper nos mèches. Qu'est-ce que cela veut dire ? Le Seigneur veut couper notre mondanité. Il veut couper notre chair. Il veut couper, éliminer le fait que nous vivions dans le moi. Il veut couper et éliminer tout ce qui a trait à Satan et au péché en nous. Et ensuite, il veut ajouter l'huile dans l'Église, dans notre être intérieur. Et cette huile représente l'Esprit qui est la réalisation de Christ, lequel est la corporification de Dieu le Père. Saint, nous avons ici un point important. Voilà comment nous pouvons maintenir notre victoire. Est-ce que vous voulez savoir comment vous pouvez maintenir votre victoire pour les intérêts du corps de Christ et la préparation de sa mariée ? C'est très simple. Nous devons vivre une vie de vivification matinale. Tous les matins, prenez le temps avec le Seigneur le matin où vous êtes vraiment vivifié par le Seigneur. Ne faites pas cela à la façon d'un automatisme. Vous devez dire au Seigneur le matin, « Seigneur, je viens à toi. Je veux te contacter. Je veux que tu me contactes. Je veux te toucher et je veux que tu me touches. Seigneur, je veux que tu m'infuses au maximum de tout ce que tu es. » Et donc, nous vivons une vie de vivification matinale, et ce n'est pas tout. Nous vivons aussi une vie où nous prodiguons des soins pastoraux pour nourrir les autres. Pour nourrir les autres. Voilà comment nous pouvons maintenir notre victoire. Le petit b. Nous jouissons de la grâce du Seigneur Jésus, Christ, en tant que l'approvisionnement abondant du Dieu trinitaire lorsque nous exerçons notre esprit humain. Vous savez, le dernier verset de Galates 6, 18 et Philippiens 4, 23 et Philémon 25, tous ces versets nous montrent que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ est avec notre esprit. Et donc, si nous voulons faire l'expérience du Seigneur comme la grâce, nous devons exercer notre esprit. Exercez votre esprit pour toucher le Seigneur. En fait, le Seigneur en lui-même est la grâce. Vous savez, 2 Timothée 4, 22, voilà quelles sont, ce sont là les dernières paroles de Paul. Le Seigneur soit avec ton esprit, la grâce soit avec vous. Si nous avons cela en réalité, si nous nous réjouissons du Seigneur comme celui qui est avec notre esprit, si nous nous réjouissons de lui comme la grâce qui est avec nous, cela veut dire que nous avons la réjouissance de lui la plus élevée et l'expérience de lui la plus élevée. Et donc nous réjouir du Seigneur qui est avec notre esprit, c'est avoir la présence de la grâce. Si nous perdons cela, alors c'est là que vient la dégradation de l'Église. Nous devons prier que 2 Timothée 4, 22 puisse devenir notre réalité. Le petit c, la parole de Dieu est la parole de grâce. Dans Actes 20, 32, il s'agit là des derniers moments de Paul avec les anciens à Éphèse. Et il dit « Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui peut vous édifier et vous donner l'héritage parmi tous ceux qui ont été sanctifiés. » Saint, la parole de Dieu est la parole de grâce. Si vous voulez vous réjouir de Dieu, vous devez entrer dans sa parole, dans un esprit et une atmosphère de prière. Colossiens 3,16 nous dit que si nous permettons à la parole de Christ d'habiter richement en nous, alors spontanément nous chanterons. Nous chanterons avec grâce dans nos cœurs à Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Nous chanterons avec grâce. Jérémie 15,16 dit « Tes paroles se sont trouvées devant moi ». Vous savez, parfois nous ne nous arrêtons pas sur cette première partie. Mais chaque matin, chaque jour, nous devons trouver la parole de Dieu. Nous devons faire des nouvelles découvertes dans la parole de Dieu. Oh, aujourd'hui, j'ai trouvé la parole de Dieu. J'avais déjà lu ça dans le passé, mais je peux témoigner que de nombreuses fois, vous savez, par la miséricorde du Seigneur, nous avons tous des fonctions différentes. Ma fonction a été une fois d'éditer ce livre. Et j'étais là lorsque ce livre a été donné, lorsque les messages ont été délivrés. Et mon témoignage, c'est que je pouvais être là pour entendre les messages, je pouvais bien éditer le livre. Mais quand je l'ai relu, je me suis demandé, mais où étais-je quand j'entendais ces messages et quand j'éditais ? Ces paroles, je les ai trouvées à nouveau. Et elles sont devenues la parole instantanée du Seigneur qui m'était adressée. Et à nouveau, il faut bien souligner que le ministère ne remplace pas la Bible. Le ministère ouvre les richesses de la Bible et nous amène dans la signification intrinsèque de la Bible. Et donc, si nous trouvons les paroles du Seigneur, qu'est-ce qu'elles vont devenir ces paroles? Elles vont faire l'agrément et la joie de notre cœur. Le point D dit, nous faisons l'expérience du Dieu trinitaire passer par un processus comme la grâce de la vie lorsque nous nous réunissons avec d'autres saints sur le terrain de l'unité. Telle est notre expérience. Et saints, vous pouvez lire tous ces versets plus tard. J'aimerais simplement mentionner ces versets dans Actes 4, 33. Il est dit, quand l'Église a commencé à se réunir, une grande grâce reposait sur eux tous. C'est quelque chose de merveilleux. Je prie que cela puisse être notre expérience dans toutes les églises locales sur la terre, qu'à chaque fois que nous nous rassemblons, il y a une grande grâce qui repose sur nous. Dans Actes 11, 23, il y a quelque chose de merveilleux qui est décrit. c'est quand Barnabas est arrivé. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu. En d'autres termes, la grâce de Dieu était visible. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire que Barnabas a vu la grâce de Dieu? Cela veut dire que Barnabas a vu le Dieu trinitaire qui était reçu et dont les croyants se réjouissaient. Et le Dieu trinitaire qui était exprimé au travers d'eux, dans leur salut, dans le changement qui s'opérait dans leur vie sainte, et dont les dons qu'ils manifestaient dans les réunions. Et donc Barnabas a vu comment les saints se réjouissaient du Dieu trinitaire, comment le Dieu trinitaire était exprimé dans leur salut, dans le changement de leur vie, dans leur vie sainte et dans les dons qu'ils manifestaient dans les réunions. Il s'agit là de la grâce visible. Nous pouvons en fait véritablement voir la grâce de Dieu quand cette grâce opère en nous. Et Barnabas, dans ce verset, nous dit qu'il a exhorté tous les saints à Antioche et à persévérer auprès du Seigneur d'un cœur résolu. Cela veut dire qu'il les a exhortés à rester fidèles, fidèles au Seigneur, à s'attacher au Seigneur et à vivre dans une communion très proche, très intime avec le Seigneur. Eux dit, nous pouvons faire l'expérience du Seigneur comme notre grâce qui augmente et qui suffit dans toutes les situations, lorsque nous sommes au milieu des souffrances et des épreuves. Dans 2 Corinthiens 12, 9, quand Paul souffrait à cause d'une épine dans la chair, le Seigneur n'a pas retiré cela, mais il a dit « Ma grâce te suffit car ma puissance est perfectionnée dans la faiblesse ». Nous avons un petit livret qui s'appelle « Un trésor dans les vases d'argile ». Je vous encourage à le lire, c'est un petit livret très précieux. Je vais vous raconter l'histoire qui se trouve dans ce livre. Ce n'est pas mot pour mot, mais c'est un résumé. Frère Ni avait demandé au Seigneur de retirer quelque chose dans sa vie. Je ne sais pas si c'était une maladie ou quelque chose qui l'empêchait d'avancer, selon lui. Et Dieu a répondu à Watchman. Il lui a donné une vision d'un bateau qui descend le long d'une rivière. Et tout à coup, il se retrouve face à un énorme rocher qui l'empêche de passer. Et alors, Frère Ni dit cela. Et alors, le Seigneur dit cela à Frère Ni. « Frère Ni, est-ce que tu veux que je retire cet énorme rocher ou est-ce que tu veux que j'augmente le niveau de l'eau ?» Et immédiatement, Frère Ni a réalisé que Dieu, il ne s'occupait pas à enlever les rochers, mais ce qu'il faisait, c'était qu'il augmente la grâce. Et donc, à chaque fois que nous traversons des souffrances, des épreuves, c'est pour permettre au Seigneur d'augmenter notre réjouissance de lui dans notre être. Le point F dit, nous devons œuvrer pour le Seigneur dans la puissance de sa grâce. Paul dit, j'ai travaillé plus abondamment que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Lisons maintenant le point G, qui dit, nous devons être de bons intendants de la grâce variée de Dieu. Chers saints, c'est vraiment intéressant. Le mot « économie » que nous trouvons dans 1 Timothée 1, 3 à 4, il nous est dit que l'unique enseignement du Nouveau Testament est l'économie de Dieu. En grec, « oikonomia ». Le mot pour « intendant », le mot grec pour « intendant » est « oikonomos ». Nous devons être de bons oikonomos de la grâce de Dieu. Cela veut dire que nous devons être ceux qui distribuent adéquatement, de bons distributeurs de la grâce de Dieu. Et donc, Éphésiens 3, 2, Paul nous dit qu'il a reçu l'intendance de la grâce de Dieu. Et ici, le mot pour « intendance » est aussi « oikonomia ». Quand l'économie de Dieu nous est transmise, nous est donnée, cela devient notre intendance. Et il est dit, l'intendance de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Qu'est-ce que cela veut dire, chers saints, pratiquement? Cela veut dire que nous nous réjouissons du Seigneur Jésus pour le bien des autres. La raison pour laquelle je dois me réjouir du Seigneur tous les matins, c'est pour le bien des saints dont je m'occupe. Même pour le bien de ma famille, il faut que je me réjouisse du Seigneur. C'est ce qui m'a été donné pour vous, à moi, pour vous. Saints, dans votre vie, n'éliminez pas ces mots de votre expérience. À moi. Si vous n'avez pas ce « à moi », alors vous ne pourrez pas avoir le « pour vous ». À moi, c'est recevoir Dieu en Christ comme l'Esprit, comme la grâce pour être notre réjouissance. Ça, c'est pour nous, à nous. Et ensuite, cette réjouissance peut s'écouler de nous pour les autres. Ça, c'est pour vous. Je vais m'arrêter ici en ce qui concerne ces versets qui sont merveilleux. Vous pouvez y revenir plus tard. H dit, « Par la puissance de la grâce, la force de la grâce et la vie de la grâce, nous pouvons être justes avec Dieu et les uns avec les autres. La grâce produit la justice. » Hébreux 11:7 montre cela, et dans Romains 5, 17 et 21, nous voyons que la grâce règne. Lisons maintenant le point C. Tout comme son grand-père Enoch, Noé marcha avec Dieu par la foi, qui était l'élément divin de Dieu, transfusé et infusé en lui comme sa capacité à croire. Saint, j'ai toujours tellement apprécié cela, parce que quand j'étais un incroyant, je me demandais toujours comment est-ce que je peux avoir la foi. Je ne comprenais pas. Je me demandais comment est-ce que les gens peuvent simplement croire en Dieu, croire en Christ. En fait, cela ne vient pas de nous. C'est l'élément divin de Dieu qui est transfusé et infusé en nous et qui devient notre capacité à croire. Voilà pourquoi Hébreux 12:2 nous dit de tourner les regards vers Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Lorsque nous tournons notre regard vers Jésus, il s'infuse comme notre foi pour devenir notre capacité à croire, afin de croire pour nous. Je continue la lecture de ce point. En conséquence, il devint un héritier et un héros de la justice, en protestation contre la génération mauvaise. La justice de Noé renforça la position de Dieu concernant l'exécution de son jugement sur cette génération impie. Lisons maintenant le point D qui est un point fantastique. L'arche que Noé construisit est un type du Christ pratique et présent, comme le salut de Dieu. La construction de l'arche revient à édifier ce Christ pratique et présent, comme le salut de Dieu dans notre expérience, pour l'édification du corps de Christ, comme le Christ corporatif. D'après Philippiens, cela revient à travailler à notre propre salut. Et laissez-moi dire la chose suivante pour que vous ayez une compréhension complète. L'arche, d'un côté, représente Christ lui-même. D'un autre côté, nous pouvons dire que l'arche représente l'Église. Et nous savons que la plus grande prophétie dans la Bible est Matthieu 16, 18, où le Seigneur dit qu'il bâtira son Église. Mais, saints, revenons à ce point qui nous parle de l'arche qui représente Christ lui-même. En fait, il représente le Christ pratique et présent comme le salut de Dieu. Réfléchissez à cela. Quel a été le salut de Noé et de sa famille? Leur salut était l'arche. L'arche était leur salut. Saint, notre salut est Christ. Et donc nous devons édifier le Christ pratique et présent comme le salut de Dieu. Dans notre expérience. Lorsque nous faisons cela, cela est pour l'édification du corps de Christ, comme le Christ corporatif. Voilà le deuxième aspect de l'édification de l'arche, de la construction de l'arche. Donc, lorsque nous édifions ce Christ pratique et présent comme le salut de Dieu dans notre expérience, pour l'édification du corps de Christ comme le Christ corporatif, alors nous sommes sauvés de cette génération tortueuse et pervertie. Et nous sommes sauvés complètement. C'est un salut complet par la régénération, la transformation, la conformation, la glorification. Nous sommes sauvés de l'âge présent jusque dans un autre âge, l'âge du royaume du millénium qui sera là où Christ reviendra avec sa mariée vainqueur, victorieuse. Donc, saint, chaque jour, nous devons édifier ce Christ pratique et présent dans notre expérience. Si nous faisons cela, alors nous pourrons entrer dans le Christ même que nous aurons édifié dans notre expérience pour l'édification du corps de Christ. Ce qui sera l'édification, la construction de l'arche. Et si vous me comprenez, je vais utiliser ce terme de cette manière-là. Alors vous serez en Christ, en réalité, et vous flotterez. Vous flotterez. Vous flotterez tout simplement, sans effort, jusque dans le royaume du millénium. Indique ce que je viens de dire. Construire l'arche revient à travailler à notre propre salut, c'est-à-dire à édifier Christ dans notre expérience pour l'édification du corps de Christ, le Christ corporatif. Ce sur quoi Noé travailla et ce en quoi il entra était le salut de Dieu, l'arche. Vous voyez, à nouveau ici, nous voyons que l'arche représente le salut de Dieu. Nous devrions avoir un Christ pratique et présent en qui nous pouvons entrer en tant que le salut de Dieu. Saint, notre Christ n'est pas qu'un Christ historique, il n'est pas un Christ distant, il est un Christ pratique et présent. Il est un Christ dans lequel nous pouvons entrer en tant que le salut de Dieu. Le point 3 dit « Le salut dans Philippiens 2:12 n'est pas le salut éternel de la condamnation de Dieu et du lac de feu, mais le salut quotidien et constant qui est en Christ ». En tant qu'une personne vivante. Bien que nous ayons le salut éternel, nous avons besoin d'un salut supplémentaire, de la génération tortueuse et pervertie. Voilà pourquoi Philippiens 2:12 nous dit de travailler à notre propre salut. Philippiens 2:15 dit ensuite, afin que nous soyons des enfants, de Dieu sans défaut au milieu d'une génération tortueuse et pervertie, afin que nous puissions être sauvés maintenant de cette génération tortueuse et pervertie. Comment ? En présentant la parole de vie. Présenter la parole de vie veut dire que nous présentons cette parole, nous offrons cette parole aux autres en vivant Christ. Et il est dit « parmi laquelle vous brillez ». Comme des luminaires dans le monde. J'aime ces deux mots. Vous brillez. Saint, quand nous sommes dans le monde, nous devrions briller. Et nous ne pouvons que briller si nous permettons à la parole de vie de Christ de habiter en nous richement tous les jours. 4 dit, aujourd'hui, nous nous trouvons dans le passage du salut de Dieu. Nous sommes entrés dans ce passage. Et notre traversée de ce passage, tout comme l'arche de Noé, est notre travail pour notre propre salut. Le petit a. Plus Noé construisait l'arche, plus il passait à travers le salut de Dieu. Et en fin de compte, il entra dans ce à quoi il avait travaillé. Petit b. Le Christ même que nous construisons dans notre expérience aujourd'hui deviendra notre salut futur. Un jour, dans la souveraineté de Dieu, nous entrerons dans ce Christ même que nous aurons construit. Écoutez cela maintenant. Aujourd'hui encore, si nous bâtissons Christ dans notre expérience, nous pourrons demeurer en Christ et habiter en lui. En d'autres termes, si vous vous levez le matin et si vous commencez votre journée en édifiant Christ dans votre expérience et que vous le faites aussi au travers de la journée, alors spontanément, vous aurez la capacité à entrer dans ce Christ même que vous avez bâti. Vous pourrez demeurer en Christ et habiter en lui. Un dit, édifier Christ dans notre expérience, c'est aimer le Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? C'est tellement pratique. Dites, Seigneur Jésus, je t'aime en tout temps. Parlez-lui en invoquant son nom. Vous savez, Saint, j'ai tellement de fardeaux pour les jeunes, ceux qui prennent soin des jeunes. Vous devez les aider à parler au Seigneur. Parlez au Seigneur. Abraham, trois fois, il est mentionné dans la Bible qu'Abraham était l'ami de Dieu. Nous verrons que Moïse était le compagnon de Dieu. Abraham avait une relation si intime avec Dieu qu'il pouvait parler avec Dieu. Nous devons apprendre à parler avec Dieu. Nous devons avoir des centaines et des centaines de conversations avec Dieu, jusqu'à ce que toutes ces conversations deviennent un mémorial éternel entre nous et Dieu. Et saint, si nous avons quelques problèmes que ce soit, nous devons simplement en parler au Seigneur. Le Seigneur est juste là, au-dedans de nous, et il est avec nous face à face. Et donc, quand l'anxiété survient, nous pouvons dire « Oh Seigneur Jésus, cette anxiété est tienne, elle n'est pas à moi. Je te donne cette anxiété, Seigneur, parce que tu la portes pour moi. » Si vous dites cela, alors spontanément vous recevrez l'élément de Dieu en vous et son métabolisme va opérer constamment en vous. Voilà, c'est ça qui revient à vivre Christ. Dans le point suivant, je cite directement le ministère. C'est un secret merveilleux que je vous cite. Il dit, ceux qui ne connaissent pas ce secret, quel secret? Le secret de parler au Seigneur. Lui parler face à face à propos de quel que soit le problème que nous ayons, quelle que soit l'anxiété, le problème. Parlez-en au Seigneur en invoquant son nom. Il a dit, ceux qui ne connaissent pas ce secret considèrent que vivre Christ est quelque chose de difficile. Écoutez cela. En fait, il nous faut tout simplement pratiquer, parler avec le Seigneur constamment. Et alors, spontanément, nous pourrons vivre Christ. Quel secret! Quel secret merveilleux! Le point 2 dit, ensuite, ah, pardon, je n'ai pas encore terminé le point précédent, lui parler en invoquant son nom et en communion avec lui, vivant par lui et marchant avec lui jour après jour et d'heure en heure, jusqu'à être un co-marcheur avec Dieu, afin que nous puissions être co-ouvriers avec Dieu. 2 dit, ensuite, nous bâtissons Christ dans notre expérience, de sorte à pouvoir entrer en lui comme notre salut. 5 dit, les 4 chapitres de Philippiens se réfèrent à la personne vivante et tout inclusive de Christ comme étant notre salut. Je ne sais pas si vous avez déjà considéré ainsi le livre de Philippiens. Mais les 4 chapitres de Philippiens se réfèrent à la personne vivante de Christ comme étant notre salut. Petit A dit, dans Philippiens 1, « Le salut, c'est vivre Christ et magnifier Christ dans toutes les circonstances. » Dans Philippiens 2, « Le salut, c'est refléter Christ en tenant ferme à la parole de la vie. » Dans Philippiens 3, « Le salut, c'est la justice de Dieu, à savoir » Dieu lui-même corporifié en Christ. Dans Philippiens 3, versets 8 et 9, Paul dit « Afin que je puisse gagner Christ et être trouvé en lui, n'ayant pas ma propre justice qui vient de la loi, mais celle qui vient de Dieu, basée sur la foi. » C'est Christ comme notre justice subjective. Finalement, le point D dit dans Philippiens 4 « Le salut, c'est Christ même en tant que la vie qui est vraie, digne, juste, pure, belle, dont il est fait l'éloge et qui est remplie de vertu et de louange. » Nous trouvons cela dans le verset 8 de Philippiens 4. Maintenant, le grand point 2. Nous en arrivons à parler de l'œuvre de Noé. L'œuvre de Noé fut une œuvre qui amena l'âge suivant. 2 Corinthiens 6:1, Paul dit que lui et ses collaborateurs travaillaient ensemble avec le Dieu trinitaire. Tout le travail que nous faisons, c'est un travail que nous faisons avec le Dieu, avec notre cher Seigneur Jésus. Quel est ce travail? Quelle est cette œuvre? C'est d'édifier l'Église. Chaque jour, nous devons édifier le Christ présent et pratique dans notre expérience pour être notre salut, pour l'édification de l'Église et du corps de Christ. Le point A. Dieu donna à Noé une révélation tout inclusive, une révélation supplémentaire, la révélation de construire l'arche, qui était le moyen par lequel Dieu allait mettre fin à la génération corrompue et introduire un âge nouveau. Noé construisit l'arche, non pas selon sa propre imagination, mais absolument selon la révélation de Dieu et les instructions divines par la foi. Dans Hébreux 11, 6 et 7, en particulier le verset 7, il est dit « Noé ayant été divinement instruit ». Saint, c'est merveilleux, j'aime vraiment cela. C'est une telle miséricorde de pouvoir simplement prendre la version recouvrement de la Bible, de lire la Bible régulièrement. Nous pouvons aussi lire les notes de bas de page qui nous ouvrent, qui nous révèlent, qui nous montrent ce que la Bible dit. Il s'agit là du ministère, du véritable ministère du Nouveau Testament qui ne remplace pas la Bible, mais qui libère les richesses insondables de Christ contenues dans la Bible et qui nous emmène dans la signification intrinsèque de la Bible. Elles fournissent les instructions divines pour édifier l'Église en tant que le corps de Christ pour la préparation de la mariée de Christ. Je continue avec le point 1 sous le point A. L'arche est un type de Christ, non seulement le Christ individuel, mais aussi le Christ corporatif, l'Église, qui est le corps de Christ et le nouvel homme, pour parachever la nouvelle Jérusalem. Le point 2. La construction de l'arche typifie l'édification du Christ corporatif, avec l'élément des richesses de Christ comme le matériau de construction, par ceux qui travaillent avec Dieu. Et je me répète, mais ces plans, ce plan, il y a tellement qui est présenté ici. Je suis tellement content que vous puissiez les avoir. Ne les mettez pas simplement sur l'étagère. Vous pouvez prier des prières courtes, en particulier sur ces points. Vous pouvez garder ces plans avec vous, y revenir en tout temps. Oh oui, je me souviens dans cette conférence, il était question de l'arche et de la construction de l'arche, de la signification intrinsèque de cette construction de l'arche. Vous pourriez avoir certains souvenirs à ce sujet, mais il serait peut-être difficile d'en parler. Et donc vous pouvez y revenir afin que cela vienne à faire partie de vous. Le point 3. Cet édifice est l'opération de Christ à l'intérieur des gens, pour les édifier ensemble par Christ, afin qu'ils puissent devenir la manifestation de Dieu dans la chair. Nous avons ici Romains 11, 36. Car saints, à chaque fois, dès que nous faisons quelque œuvre que ce soit avec Dieu, tout notre labeur doit être selon Romains 11, 36. Ça doit venir de lui, être par lui et être pour lui, pour sa gloire. En d'autres termes, même maintenant, mon aspiration est que, quoi que je puisse être en train de vous parler, que cela puisse venir du Seigneur. Cela veut dire que le Seigneur est alors la source de ce que je dis. Quoi que nous disions, quel que soit notre service, nous voulons que ça vienne de lui, de sa volonté parfaite. Nous voulons aussi que ce soit par lui. Cela veut dire Dieu en Christ comme l'Esprit, c'est-à-dire qu'il est le moyen par lequel nous faisons tout. Il est notre chemin, notre moyen, notre vie, notre force, notre provision de vie, notre tout, afin que nous puissions le dispenser aux autres. Et quel est le résultat de cela? Le résultat est que tout ce que nous faisons est pour lui, pour sa gloire, laquelle est son expression corporative. B dit, en construisant l'arche et en y entrant, Noé fut sauvé non seulement du jugement de Dieu sur la génération mauvaise au moyen du déluge, mais il fut aussi séparé de cette génération et introduit dans un nouvel âge. C'est dit, de la même manière, en édifiant l'Église et en entrant dans la vie d'Église, nous serons sauvés du jugement de Dieu sur la génération mauvaise d'aujourd'hui, par la grande tribulation, et nous serons séparés de cette génération pour être introduits dans un nouvel âge, l'âge du millénium. Saint, voilà pourquoi nous sommes ici dans le recouvrement du Seigneur. C'est pour devenir la mariée victorieuse de Christ, pour le ramener. En fait, cette mariée est l'édifice de Dieu. Dans Genèse 2, 22, nous voyons une illustration de cela. Il nous est dit que Dieu a ouvert le côté d'Adam, il a pris une côte et il l'a construite en une femme. Cette côte représente la vie indestructible de Christ. Et qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train d'édifier cette vie même qui est Christ lui-même dans notre être, et il est en train de nous édifier en une femme. Qui est cette femme? Cette femme est la mariée même de Christ. Lisons maintenant le point D. La longueur de l'arche était de 300 coudées, la longueur de 50 coudées et la hauteur de 30 coudées. Les nombres de base dans l'édifice de Dieu sont 3 et 5, comme nous le montre Exode 27, qui signifie le mélange du Dieu trinitaire avec l'homme par sa dispensation divine. Le point E continue. Vous savez, en ce qui concerne certains de ces points, nous en avons parlé un petit peu dans le premier message. Le point E. L'arche avait trois étages. L'étage inférieur, le deuxième étage, puis le troisième. Je répète, quel est le principe qui régit l'interprétation de ce livre de la Bible? Quel est notre bœuf, entre guillemets? Notre bœuf est le Dieu trinitaire qui se dispense dans son peuple élu afin de l'édifier pour être le corps de Christ, pour être la mariée de Christ qui le ramène, afin qu'ensemble, ils puissent devenir la nouvelle Jérusalem comme le grand homme-dieu de cet univers. Indi, les trois parties du tabernacle signifient les profondeurs jusqu'auxquelles nous devons tous pénétrer. Les trois étages de l'arche signifient la hauteur que nous devons tous atteindre. Deux dit, les trois étages de l'arche représente le Dieu trinitaire. L'Esprit nous amène au Fils, et le Fils nous amène au Père. Lorsque nous venons au Père, nous sommes au troisième étage. Saint, vous pouvez voir cela dans Luc 15 grâce au Fils prodigue. Il est dit que l'Esprit nous amène au Fils. Dans Luc 15, la première parabole qui est mentionnée présente Christ le Fils en tant que le berger qui abandonne les 99 brebis pour aller rechercher celle qui s'était perdue. Et il est dit « jusqu'à ce qu'il la retrouve ». Saint, le Seigneur n'abandonne jamais personne. Nous sommes tous une preuve de cela. Le Seigneur est venu nous chercher jusqu'à ce qu'il nous retrouve. Il s'agit là de la rédemption de Christ le Fils. Mais si vous continuez à lire dans Luc 15, il est question de la parabole d'une femme qui avait 10 pièces d'argent. Et lorsqu'elle en perd une, elle allume une lampe, elle balaye toute sa maison et elle cherche soigneusement. Écoutez cela, jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Cela veut dire qu'elle non plus ne s'arrête pas avant de l'avoir retrouvée. Il s'agit là de la sanctification du Seigneur qui recherche. Il s'agit de la sanctification de recherche de l'Esprit. Avant que nous ayons reçu le Seigneur en tant que notre Rédempteur et notre Sauveur, en fait, l'Esprit nous cherchait. L'Esprit opérait dans notre environnement. Il nous cherchait. Il utilisait la parole pour nous illuminer de l'intérieur, pour nous faire entrer en lui-même, comme le fils prodigue. Il est dit qu'il était rentré en lui-même. Et ensuite, nous prenons conscience que nous devons revenir vers notre Père. Et donc, le fils prodigue est rentré, est retourné vers son Père. Son Père l'a vu et il a dit à ses serviteurs, « Amenez, apportez vite la plus belle robe et revêtez-la. » Cette plus belle robe représente Christ comme la satisfaction, comme la justice qui satisfait Dieu. Le fils prodigue reçoit un anneau à la main qui représente l'esprit qui nous scelle. Et il y a aussi des souliers aux pieds qui signifient la puissance du salut de Dieu qui nous sauve de ce monde sale. Et finalement, ils apportent le veau gras, ils le tuent et ils mangent et ils se réjouissent. Le veau gras représente le Christ riche qui est tué pour notre réjouissance. Et donc même dans Luc 15, nous avons la sanctification qui recherche de l'Esprit qui nous amène à Christ le Fils pour notre rédemption et notre régénération. Et qui, finalement, nous amène à Dieu le Père. Et qui nous amène aussi à la maison de Dieu le Père, laquelle est l'Église. Et qu'est-ce que nous entendons dans l'Église? Nous entendons des gens qui mangent et qui se réjouissent. Voilà comment devrait être notre vie d'Église. Les gens mangent Christ et les gens se réjouissent de Christ. Le point 3 dit, nous devons entrer dans l'intimité la plus profonde et la plus élevée avec notre Dieu Trinitaire, afin qu'il puisse nous amener au troisième étage, afin de nous montrer ses mystères, ses secrets et ses trésors cachés. J'ai dit cela dans la première session, si vous avez une maison de trois étages et que vous habitez au troisième étage, vous ne permettrez qu'aux personnes avec lesquelles vous êtes les plus intimes de monter jusqu'au troisième étage, afin de leur montrer vos trésors cachés et vos secrets. Ces versets ici nous montrent comment nous pouvons être intimes avec le Seigneur. 1 Corinthiens 2, 9 nous dit qu'il a été préparé des choses qui ne sont pas encore montées dans le cœur de l'homme, des choses que les yeux n'ont pas vues, que les oreilles n'ont pas entendues, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc nous devons aimer le Seigneur. Dans 1 Corinthiens 16, 22, il est dit « Tous ceux qui n'aiment pas le Seigneur, qu'il soit maudit. » Si nous aimons le Seigneur, c'est indescriptible. Toutes les richesses insondables de Dieu, nous pouvons nous en réjouir lorsque nous aimons le Seigneur. 2 Corinthiens 2, 10 nous dit que tout ce que nous faisons devrait être dans la personne de Christ. Le mot grec pour « personne » est « visage ». Cela veut dire que nous faisons tous devant le visage de Christ, dans l'index de ses yeux. Exode 33, 11 nous dit que Moïse parlait avec Dieu comme un homme parle avec son compagnon. Nous devons prier « Seigneur, fais de moi ton compagnon. Je veux que tu parles avec moi face à face tous les jours. » Le point F dit « Dans l'arche, il n'y avait qu'une ouverture vers les cieux pour la lumière. On appellerait ça une lucarne aujourd'hui. Ici, il y avait bien cette fenêtre qui était ouverte en direction des cieux. Nous devons prier, « Seigneur, amène-moi dans l'intimité la plus profonde et la plus élevée avec toi. Je veux être au troisième étage du Dieu Trinitaire, afin de pouvoir être sous cette unique ouverture pour recevoir la quantité maximale de lumière de ta part. » Dans Genèse 6, 16, il est dit « Tu feras une ouverture pour l'arche. » Le mot hébreu, traduit par ouverture, a la même racine que le mot pour midi. Cela signifie que lorsque nous sommes sous l'ouverture, la fenêtre, nous sommes à midi et nous sommes remplis de lumière. remplie de lumière. Deux dit, tout comme il n'y avait qu'une seule fenêtre, une seule ouverture dans l'arche, il y a seulement une fenêtre, une révélation et une vision à travers un seul ministère dans l'édifice de Dieu. Voilà pourquoi dans Actes 26-19, Paul dit au roi Agrippa qu'il n'a pas été désobéissant à la vision céleste. Quelle est cette vision céleste? Si vous lisez les épîtres de Paul, il est très clair que la vision céleste est la vision céleste de l'économie éternelle de Dieu. Et cette vision céleste de l'économie éternelle de Dieu est la vision de cet âge, qui est dispensée en nous grâce au ministère de l'âge. Je continue avec le point G. Il y avait une seule porte et une seule entrée dans l'arche. Cette porte unique est Christ. J'aime beaucoup Genèse 7:16. Il est dit, « Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. » Et écoutez maintenant cela, « Puis Jéhovah ferma la porte sur lui. » Saints, nous sommes entrés en Christ et Dieu a fermé la porte derrière nous. Ce qui veut dire que c'est trop tard. Nous ne pouvons plus sortir de Christ. Dieu nous a enfermés en Christ et nous sommes maintenant une personne en Christ. Et donc le point 1 dit, Noé qui entre dans l'arche nous typifie lorsque nous entrons en Christ. 2 dit, une fois que nous croyons au Seigneur Jésus, nous y sommes enfermés par Dieu sans aucun moyen de sortir de lui. Le point H. L'arche était en bois de gopher, une sorte de cyprès, un bois résineux qui peut résister aux agressions de l'eau. Il est une figure du Christ crucifié qui peut résister aux eaux de la mort. Le point I. L'arche était entièrement recouverte, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, d'un enduit qui est un type du sang rédempteur de Christ, qui couvre l'édifice de Dieu intérieurement et extérieurement. 1. Le mot hébreu traduit par enduit a la même racine que le mot pour expiation qui signifie couvrir. Noé et sa famille furent sauvés du jugement du déluge grâce à l'enduit qui couvrait l'arche, ce qui signifie que les croyants en Christ sont sauvés du jugement de Dieu par le sang rédempteur de Christ. Écoutez le point 2, j'apprécie énormément ce point. Chaque fois que nous fixons nos regards sur le sang, nous avons la paix. Chaque fois que Dieu regarde le sang, il est satisfait. Chaque fois que Satan regarde le sang, il est incapable d'attaquer. Chaque fois que les anges regardent le sang, ils se réjouissent. Loué soit le Seigneur pour le sang de Christ, le sang précieux de Christ. Le point J dit, l'eau à travers laquelle Noé passa est une figure de l'eau du baptême. 1 Pierre 3, 20-21. 1 dit, l'enduit sur l'arche qui typifie le sang de Christ sauva Noé du jugement du déluge. Tandis que l'eau du déluge, qui signifie l'eau du baptême, n'a pas seulement jugé le monde, mais aussi séparé Noé de l'âge mauvais. 2 dit, l'eau du déluge délivra Noé de l'ancienne manière de vivre et l'amena dans un nouvel environnement. De la même façon, l'eau du baptême nous délivre de notre ancienne manière de vivre dont nous avons hérité, et nous amène dans une manière de vivre qui est en résurrection et en Christ. Romains 6, 3 à 5 nous dit cela. Matthieu 28, 19 nous dit que lorsque nous sommes baptisés dans le Dieu trinitaire. Galates 3, 27 dit que nous sommes baptisés en Christ. Ici, dans Romains 6, il nous est dit que nous sommes baptisés dans la mort de Christ. 1 Corinthiens 12, 13 dit que nous sommes baptisés dans le corps de Christ. Saint, il nous faut partager ces choses avec les gens avant qu'ils ne soient baptisés, pour qu'ils puissent prendre conscience de ce qui leur arrive lorsqu'ils sont baptisés. Lorsqu'ils sont baptisés, ils sont baptisés dans la mort de Christ. Et le résultat est que leur ancienne manière de vivre est enterrée dans les eaux du baptême. Et ils héritent, ils sont amenés dans un nouvel environnement. Quel est ce nouvel environnement? Il s'agit d'un environnement dans lequel ils marchent en résurrection de vie, en nouveauté de vie, c'est-à-dire qu'ils marchent en résurrection en Christ. Voilà en tous les cas la signification de Noé, la vie de Noé et l'œuvre de Noé qui peuvent faire basculer l'âge. Quelle miséricorde de pouvoir avoir des matériaux comme cela. Je vous encourage à lire les études de vie de la Genèse sur ces points. Et vous verrez beaucoup plus. Nous allons nous arrêter ici et avoir des partages, des témoignages. Amen, chers saints.